Alors, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, bon, déjà, beaucoup de choses ont déjà été abordées, donc c'est un petit peu un challenge ou un défi de parler en dernier lieu. Alors, je vais prendre un point de vue qui est assez spécifique, somme toute, puisque ça va être peut-être un point de vue de juriste, hein, un point de vue plutôt de philosophie du droit. Je ne vais pas m'intéresser du tout à la loi, mais je vais m'intéresser à la notion de justice. Alors, la question, en fait, il m'est arrivé à la suite de la lecture d'un texte de Derrida qui s'appelle The Force of Law, qui a été cette énorme conférence, The Force of Law, où il explique que la justice, c'est la déconstruction. Or, justement, ce que font les algorithmes, c'est déconstruire nos images, c'est déconstruire nos catégories, c'est déconstruire constamment tout ce qu'on pourrait appeler les images du droit, les images de la pensée. On m'entend bien ?
Oui.
Ah, d'accord, pardon. J'ai pas besoin de...
D'accord.
Merci. Donc, voilà de quoi je vais parler. Mais tout d'abord, pour un petit peu coller à l'invitation quand même, hein, qui nous demandait de dire ce qu'est le web. Alors, le web, c'est pas pour moi un objet, donc je ne vais pas dire ce qu'est le web. Je vais dire néanmoins que dans cette problématique du web, il y a plusieurs étages ou plusieurs couches. Alors, la première couche, et principalement, il y a deux couches qui sont un peu concurrentes ou contradictoires. La première couche, c'est une couche signifiante, de sémiotique signifiante. Il y a la couche... En fait, j'avais préparé ma présentation en anglais, donc je passe à l'anglais. There are two layers of the web. The first one is a signifying semiotic layer, donc une couche signifiante. C'est la couche des réseaux sociaux, c'est le web sur lequel on s'exprime en tant que personne suivant, enfin avec un langage qui n'est pas un langage de 1 et de 0, mais un langage compréhensible par les individus. Alors sur cette couche-là, on maîtrise plus ou moins les codes d'intelligibilité. La trajectoire, ça c'est un peu moins sûr, mais on maîtrise en tout cas les codes d'intelligibilité de ce qu'on y poste. C'est même le lieu de l'hypersubjectivation. On parle toujours de désubjectivation. Je pense que c'est une énorme erreur. Sur les réseaux sociaux, on a affaire plutôt à vraiment de l'hypersubjectivation. Les individus sont appelés à se produire, à performer en continu. Ça, c'est la première couche. La deuxième couche, eh bien, c'est une couche assignifiante. C'est la couche algorithmique. C'est la couche de calcul invisible, imperceptible. Alors, une couche qui se nourrit de données brutes, ou de données de toutes sortes, de données numériques, ce ne sont pas seulement les données qui sont captées dans des réseaux sociaux sur le web, ce sont aussi, bien sûr, toutes ces données-là, mais en plus, les données qui surviennent grâce à ce qu'on appelle l'observation multimodale, hein, c'est-à-dire les coordonnées GPS, les enregistrements de trajectoire, les images de caméras de vidéosurveillance, tout ce genre de choses. Donc, vraiment une sorte de multimodalité. Donc, le web assignifiant est en quelque sorte beaucoup plus riche que le web signifiant. Donc la quantité de données qui sont disponibles pour l'analyse par les machines est beaucoup plus importante que la quantité de données que nous avons l'impression, nous, de pouvoir comprendre et qui sont en quelque sorte des transcriptions volontaires de nos subjectivités pour peu que quelque chose comme ça existe. Alors dans ce monde... assignifiant, on n'a plus du tout affaire à des sujets. Bon, ça, on peut se dire que c'est une bonne occasion de se défaire une fois pour toutes de ce fameux humanisme. Bonne chose de fait, bon débarras. Nous n'avons plus affaire qu'à des réseaux de données infrapersonnelles qui sont agrégeables à l'échelle industrielle et à un niveau supra-individuel. Donc, il n'y a plus du tout d'individus. Il n'y a plus qu'une sorte de grand corps statistique, un grand corps composé de données récoltées dans des temporalités très différentes, dans des contextes hétérogènes. Et donc... Finalement, c'est un mot, je dis, assignifiant, parce qu'on n'a même plus affaire à des signes qui ont un quelconque rapport avec une chose qu'ils sont censés signifier. On n'a plus affaire qu'à des signaux quantifiables, malgré ou grâce au fait qu'ils sont dépourvus de signification singulière. Et donc, c'est évidemment cette couche-là qui moi, m'intéresse particulièrement. Je ne vais pas revenir sur la définition que j'avais donnée de la gouvernementalité algorithmique, mais bon, ou bien j'y reviens très, très vite. Finalement, le gouvernement algorithmique, c'est une forme de gouvernement qui est nourrie essentiellement par ces données brutes, qui affecte les individus sur le mode de l'alerte plutôt que sur le mode de la recommandation, de l'interdiction, de l'obligation. Non, c'est l'alerte qui provoque du réflexe. Donc c'est un mode de gouvernement qui contourne les capacités d'entendement et de volonté des individus, qui n'a plus du tout besoin de présupposer des sujets capables d'entendement et de volonté. D'ailleurs, ça, on peut aussi se dire que c'est un bon débarras dans une certaine mesure, hein, mais ça pose d'autres questions. Bien entendu, c'est un mode de gouvernement aussi qui a, enfin, dans lequel la cible a changé. C'est un gouvernement qui n'a plus pour cible les comportements actuels ni les comportements passés, mais l'avenir. C'est un mode de gouvernement ou plutôt de gestion de l'incertitude. C'est même plus tellement gouverner dont il s'agit, mais c'est vraiment de gérer l'incertitude ou plutôt de neutraliser l'incertitude. Alors, par incertitude, j'entends bien entendu incertitude radicale, c'est-à-dire l'excès du possible sur le calculable. Voilà, le reste incompressible d'incertitude radicale qui échappe précisément au calcul, qui échappe au calcul de probabilité. Donc, on passe de la statistique traditionnelle qui travaille avec les probabilités, etc., vers une statistique d'un autre type, hein, d'autres pratiques statistiques qui n'ont même plus besoin d'aucune idée de moyenne, qui ne peuvent plus d'ailleurs avoir une idée de moyenne, puisque si vous voulez, dans les big data, hein, donc réseaux sociaux, le web, plus tout ce qui est en dehors du web, eh bien, les bases statistiques sont quasiment ou sont postulées coextensives au réel numérisé lui-même. Et donc, les jeux de données n'ont jamais été aussi élastiques en extension qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée d'une moyenne stable est quelque chose de tout à fait absurde. Alors, juste pour vous dire quelques mots encore de ces nouvelles pratiques statistiques, en quoi ça s'éloigne de la statistique traditionnelle, qui est, et là, ça a un rapport avec nos images, le fait que ça défait nos images. Eh bien, la statistique traditionnelle fonctionnait toujours sur des catégories préexistantes. Alors, des catégories qui sont établies par convention. Alain Desrosières parle de conventions de quantification qui permettent de mettre ensemble ou de rendre commensurables des choses qui sinon ne le seraient pas. Mais ce sont des conventions. Donc, il y a des catégories qui préexistent au traitement des données. Dans la statistique traditionnelle, on va subsumer les données dans des catégories préexistantes. Quand on passe à des analyses de type big data, eh bien, c'est exactement l'inverse. Il n'y a plus aucune catégorie, aucune hypothèse qui préside à la collecte des données. On collecte absolument tout, dans l'idéal, hein, sans sélectivité. Et puis, de ce tout va émerger, par la grâce d'algorithmes, les catégories elles-mêmes, qu'on n'a pas présupposées, les catégories à travers lesquelles on va interpréter le monde. Donc, nouvelle pratique statistique, complètement immanente. Alors, avec le rêve étant, évidemment, et c'est en ça que c'est un... Tout ça, c'est le symptôme d'une sorte de passion pour le réel, passion pour, non pas pour le réalisme de la représentation, mais passion pour le réel qu'on pourrait enfin atteindre sans en passer par aucune représentation. C'est l'idée d'un social qui deviendrait modélisable en lui-même, hein, modélisation du social à même le social numérisé lui-même, sans en passer par aucune médiation. On a parlé beaucoup de médiation, alors on aurait peut-être une discussion à avoir à cet égard-là, parce qu'il me semble précisément que ce que nous propose le rêve, je ne sais pas s'il s'agit d'un rêve ou d'utopie ou de la dystopie que nous proposent les big data, c'est de n'avoir plus de se passer de toute forme de médiation. Faire en sorte qu'à la limite, le réel se gouverne lui-même au départ des quantités massives de données, que le réel produise lui-même ses catégories, c'est-à-dire ses normes en quelque sorte, avec une sorte de, on a du coup l'impression d'une sorte de normativité presque immanente à la vie même, un peu à la Canguilhem, et donc une naturalisation évidente de la normativité impliquée là-dedans. Tout ça est évidemment symptomatique d'une crise généralisée de la représentation. Je ne parle pas seulement de la représentation politique ni de la représentation esthétique, mais de la représentation comme étant ce qui constitue, si vous voulez, le signe manifesté après coup d'une chose qui aurait disparu. Rien n'a jamais disparu dans l'univers des big data. Il n'y a pas d'historicité, il n'y a pas de passé. Et donc, on a besoin de plus rien représenter. À la crise générale de la représentation, les big data apportent une réponse radicale. Il n'y a absolument plus rien à représenter. Tout est toujours déjà présent. Il suffit de faire tourner des algorithmes sur les quantités massives de données pour faire surgir le réel immédiatement, sans médiation. Donc vous voyez ce vers quoi je veux aller, c'est ceci. Lorsque Derrida explique que la justice, c'est la déconstruction, eh bien, on pourrait sentir une sorte d'affinité, qu'il s'agira évidemment aussi de déconstruire, entre les positions de Derrida sur la justice, mais aussi celle de Deleuze, Deleuze qui critique justement les images de la pensée, la réflexion par recognition, le jugement comme étant l'acte ou l'activité qui consiste à subsumer le réel perçu dans des catégories préexistantes sans questionner celles-ci. Vous voyez, il y a une sorte de presque de complicité tout à fait implicite entre la vocation de la critique à déconstruire les catégories préexistantes et cette idée des big data qui permettrait justement de faire émerger les catégories des données elles-mêmes sans jamais présupposer aucune hypothèse, aucune catégorie. Et en plus, grâce au progrès dans le domaine du machine learning, évidemment, les catégories qui émergent des données elles-mêmes s'affinent en temps réel en fonction de ce qui se produit dans le monde. Donc on a vraiment affaire à une sorte de métabolisme vivant, de plus en plus autonome, qui peut se présenter sous certains angles comme correspondant à l'idéal de la justice, comme déconstruction. Bon, alors, comme je l'ai dit, l'objet, c'est une particularité qu'on devra prendre en compte pour déconstruire justement cette affinité apparemment trop évidente entre la justice comme déconstruction et les big data comme déconstruction, et donc les big data comme justice. Eh bien, c'est précisément que les big data ont pour but, si on peut dire que des big data ont pour but, enfin, l'idéologie des big data, l'idéologie technique des big data, dans ses prétentions à l'exhaustivité des jeux de données, donc exhaustion aussi, hein, et donc à l'épuisement du possible. L'objectif ou la finalité est, comme je l'ai déjà annoncé, d'épuiser ou d'empêcher l'incertitude, d'éviter l'expérience traumatique de l'indécidable. Alors, ça se fait de plusieurs manières. Ça, je déplie juste un tout petit peu. Hein. Dans l'idéologie technique des big data, eh bien, on va remplacer la subjectivité de l'observateur, du décideur, du fonctionnaire, de l'employeur, hein, qui est à prendre une décision vis-à-vis d'un individu. On va remplacer cette subjectivité, toujours source d'incertitude, par l'automatisation. On va automatiser les décisions de manière à supprimer une des sources de l'incertitude, qui est la subjectivité. Alors, une autre source de l'incertitude, c'est bien entendu le fait que, en tant qu'opérateur humain ou qu'agent humain, nous avons des corps et que donc nous sommes situés dans l'espace, ce qui fait que nous n'avons jamais qu'un point de vue partiel sur les choses, et que donc nous sommes obligés, et nous étions obligés dans les pratiques traditionnelles statistiques, d'avoir une certaine sélectivité. On sélectionne les données qu'on va prendre en compte en fonction du point de vue. Ici, la prétention à l'exhaustivité des big data, eh bien, nous libère à la fois du joug de la représentation et du joug de la sélectivité et du point de vue. C'est l'idée d'une épistémologie sans point de vue, qui est aussi, étant donné que cette sélectivité du point de vue humain était source d'incertitude, on ne sait jamais exactement où sont les corps ni ce qu'ils peuvent percevoir, on ne sait jamais ce que peut percevoir un corps. Ici, on élimine cette incertitude en survalorisant peut-être excessivement le caractère exhaustif de l'enregistrement des données. Et enfin, troisième source d'incertitude, alors c'est la récalcitrance de la vie même à toute tentative d'organisation excessive, hein. C'est le fait que précisément on ne sait jamais de quoi un corps est capable. Alors comment vaincre cette incertitude-là qui a toujours été une sorte de défi pour les institutions, pour le droit, etc., cette récalcitrance inhérente à la vie même, eh bien la façon de la vaincre, c'est par la préemption. La préemption consistant précisément à la fois à représenter par avance ce dont les corps sont capables, grâce justement à la modélisation algorithmique nourrie par des quantités massives de données. On représente ça, et puis on agit par avance comme si ce qui n'était encore que possible était toujours déjà réalisé. Alors ça, je vous donne quelques exemples. L'exemple le plus frappant et le plus mortel, évidemment, a été donné notamment par Grégoire Chamaillou dans sa théorie du drone, dans laquelle il explique que les décisions de frappe de missiles sur des individus qui ne sont pas identifiés autrement que par des profils de risque terroriste, déterminés de façon purement automatique. On ne sait pas qui sont ces individus, mais on sait que ils s'inscrivent dans un profil qui les désigne comme potentiels terroristes. Alors, on va les tuer par avance, comme ça on est sûr que l'événement ne va pas se produire. Et puis, on va envoyer un deuxième missile sur les personnes qui viennent aider la personne qui se trouve à terre, frappée par le missile, et puis on va envoyer un troisième missile sur le cortège funéraire. C'est ce qu'on appelle vraiment de la préemption. C'est-à-dire que ça court-circuite les champs d'action possibles des individus, ici de façon tout à fait radicale, en les supprimant physiquement, en agissant en somme, vraiment tout à fait par avance, et donc en faisant advenir, si vous voulez, ce qui n'existait que sur le mode de la potentialité. Et donc c'est une manière de fabriquer l'avenir, ou si vous voulez, d'absorber dans le vortex du temps réel à la fois le passé et l'avenir. Donc on est vraiment dans une sorte d'actualité pure et actualité absolument immunisée de tout ce qui pourrait venir la troubler et qui est de l'ordre de l'incalculable. Ce à quoi on a affaire, c'est une sorte d'immunisation de l'actuel par rapport au virtuel. Donc c'est un gouvernement, en fait, pas du tout de l'actuel, mais un gouvernement du virtuel qui opère par actualisation des virtualités. Alors, un autre exemple, peut-être, qui a l'air a priori moins tragique, mais qui ne l'est pas nécessairement pour ceux qui en font les frais. Imaginez qu'un assureur sur la vie puisse avoir accès, et il a accès, en fait, à toutes les listes de discussion sur les réseaux sociaux, etc., sur lesquels les individus qui sont potentiellement victimes de violences conjugales viennent chercher du support. Eh bien, à partir du moment où les assureurs peuvent avoir accès à ces informations, il leur est très facile de considérer comme déjà décédés des individus qui voudraient souscrire à une assurance sur la vie. Vous voyez, ce n'est pas sans impact. Ce n'est pas sans impact sur le réel. Alors, ce qui fait que ça paraît particulièrement objectif et que c'est particulièrement tentant, parce que je ne vous parle pas tout à fait de science-fiction, évidemment, ces dispositifs d'aide à la décision ou de substitution à la décision humaine sont très attrayants pour les gouvernants, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise ou de gouvernants politiques, bien entendu. Parce que ça paraît tout à fait objectif, tout simplement parce que ce que voient les algorithmes, en fait, ne voient rien, plus rien ne passe par l'épistème visuel, et donc les algorithmes ne vont jamais être accusés de discrimination raciale, ou de ce genre de choses-là. En fait, les algorithmes ne voient rien. La seule chose qu'ils font, c'est défaire nos images. Donc ce que nous appelons en français des profils, hein, ou les patterns en anglais, échappent au sens ordinaire. Ils ne correspondent à aucune classification socialement éprouvée. Ils ne se conforment à aucune image, à aucun dessin préconçu, et sont présentés par les promoteurs des systèmes automatiques de détection, de classification et d'évaluation anticipative des comportements, des performances, etc., comme s'ils n'étaient que les résultats objectifs d'une curiosité automatique. Donc, curiosité automatique non située, désintéressée. Et donc c'est là qu'on retrouve assez bien Deleuze. Hein, de fait, le data mining ne fonctionne pas sur le modèle de la récognition que Deleuze détestait. Les algorithmes de data mining, d'analyse des big data en général, ne reconnaissent rien. Ils défont nos images, ils fragmentent tout ce qui, pour l'entendement humain, pourrait avoir une forme ou une consistance. N'existe donc pour l'œil machinique qu'un grand corps statistique, impersonnel, composé de myriades de données infra-individuelles, insignifiantes, infiniment combinables en fonction d'une logique qui n'est plus du tout causale, abandon complet de la causalité au profit de l'induction, une logique purement statistique, génératrice donc de patterns ou de profils susceptibles de se substituer à l'évaluation humaine des mérites, des besoins, des capacités, des motivations dans les interactions administratives, commerciales, sécuritaires, professionnelles. Et donc, à travers ces dispositifs, en fait, que font-ils ? Ils ne font pas grand-chose. Ils ne voient rien, ils ne font pas grand-chose, mais ils nous dispensent d'un certain nombre de choses. Ils nous dispensent de l'épreuve, de l'enquête, de l'examen, du jugement, de la critique, au profit donc d'une sorte d'objectivité absolument opérationnelle qui permet d'accélérer, dans un certain nombre de cas, les décisions d'une façon tout à fait profitable. Donc l'objectif est évidemment l'accélération des flux, l'accélération des décisions, la suspension, éviter la suspension du jugement, hein, éviter l'hésitation, faire en sorte que tout aille de plus en plus vite. Ça présuppose évidemment une sorte d'indistinction entre les signaux numériques et le monde. Alors, c'est ce que Frédéric Nehra appelle la signose, une sorte de maladie du signe. C'est que les sign and things are the same thing. Il n'y a plus de distinction entre le signe et la chose. C'est une condition essentielle de fonctionnement de ces algorithmes, mais parce que c'est aussi une condition essentielle de la possibilité de la clôture du numérique sur lui-même. Sans clôture du numérique sur lui-même, bien entendu, le numérique risque toujours de se laisser interrompre par ce que Laurent appelait le réel, interrompre par la sauvagerie des faits, c'est-à-dire des faits qui n'ont pas été enregistrés sous forme de données, sous forme numérique. Donc on est vraiment dans une sorte de... Voilà, le web algorithmique, c'est à la fois une clôture du numérique sur lui-même et un régime d'indistinction entre les choses et les signaux des choses. Alors, pour rentrer dans des questions qui concernent les implications de tout cela pour la justice, eh bien, il faut se rendre compte que ces dispositifs permettent de nouvelles manières de catégoriser les individus. Quand je parle de nouvelles manières, c'est pas simplement que les critères de classification changent, c'est que fondamentalement la méthode pour opérer des regroupements change radicalement. Alors il faut savoir que au départ les données et surtout les données brutes, c'est-à-dire celles qui ont fait l'objet d'un traitement très sophistiqué, en fait, ça n'a rien de brutal, d'un traitement très sophistiqué de désindexation, d'anonymisation, on expurge les données de tout ce qui pourrait les rattacher à une singularité, hein, pour les rendre brutes. Donc, les données brutes, en fait, n'ont en elles-mêmes aucune valeur. Elles sont généralement très peu denses en information. Et en fait, ce n'est pas du tout la densité en information qui donne une valeur, qu'elle soit économique ou prédictive ou quoi que ce soit à une donnée. C'est tout autre chose. Ça dépend du temps et de la quantité des autres données récoltées. Donc, la valeur ou l'utilité d'une donnée aujourd'hui n'est jamais qu'une valeur ou une utilité d'option, c'est-à-dire qui va se définir au fur et à mesure du temps et en fonction des quantités d'autres données détenues. C'est une chose assez importante pour comprendre que nous sommes passés en fait d'un souci pour la donnée en tant qu'identifiante. Hein. Aujourd'hui, les données servent beaucoup moins à identifier les individus qu'à caractériser leur comportement. Et un comportement, c'est en vérité personne, donc là aussi disparition du sujet. Alors, la firme Deloitte expliquait, par exemple, qu'il est possible, en utilisant simplement une base de données de supermarché, de déterminer non pas l'identité des personnes, mais leur statut de santé actuel ou futur, avec un degré de précision qui est supérieur au degré de précision d'un diagnostic médical. Alors, ces profils de consommateurs qui sont apparemment même pas, qui ne contiennent pas en eux-mêmes de données relatives à la santé, donc pas du tout des données sensibles, hein, ce sont des données tout à fait triviales, sont apparemment suffisantes pour détecter les propensions à développer des maladies comme le diabète, certains cancers féminins, bon, évidemment les cancers relatifs, les cancers du poumon, les maladies cardiovasculaires, la dépression, etc. Alors, ça pose évidemment un certain nombre de questions, ça, ne fût-ce que pour les assurances, hein, alors que dans le système assurantiel d'aujourd'hui, les individus n'ont à déclarer que les conditions préexistantes, hein, dont ils ont connaissance. Aujourd'hui, bien entendu, on passe à travers les déclarations des individus pour atteindre des informations sur la santé dont les individus eux-mêmes n'ont peut-être même pas connaissance. Alors, il faut se rendre compte aussi, on parlait tout à l'heure du web de la santé, et effectivement, moi, c'est un sujet que je n'aime pas beaucoup, parce que j'avais fait ma thèse sur la génétique, et du coup, tout ce qui est relatif à la santé, aujourd'hui, j'en éprouve une sorte de dégoût, mais malgré ça, il faut bien se rendre compte, aujourd'hui, que... Eh bien, dans les quantités de données générées par ce qu'on appelle le phénomène des big data, eh bien, les données de santé sont absolument massives. Ce sont les données qui grossissent le plus en plus, le plus rapidement. Et d'autre part, il y a des tas de données qu'on ne pensait pas du tout reliées à la santé, qui sont en fait des données de santé, qui deviennent, de par les possibilités d'analyse qu'on en fait, deviennent des données de santé. Alors, ça pose des questions, je vous disais, relativement aux images du droit. Alors, quelles images du droit en particulier, cela pose question. Eh bien, dans le contexte des régimes juridiques contre les discriminations antidiscriminatoires, on interdit ou sont jugées illégales les distinctions de traitement opérées entre des individus lorsque ces distinctions de traitement sont justifiées par l'appartenance d'un individu à certains groupes, donc catégories préexistantes, qui sont par exemple des catégories révélatrices de l'origine ethnique, des opinions religieuses, des croyances religieuses, des opinions politiques, du genre, des préférences sexuelles, tout ce genre de choses. Donc, qui en fait sont hantées en quelque sorte par toute une histoire de discrimination, un historique de discrimination. Et aujourd'hui, ces catégories-là risquent peut-être de n'être plus du tout adéquates pour lutter ou pour prévenir des discriminations qui sont beaucoup plus fines, qui sont rendues possibles par l'analyse des big data, qui traverse bien entendu toutes ces catégorisations. Alors, par exemple, la catégorie données de santé ou la catégorie état de santé actuel et futur reste évidemment tout à fait pertinente, mais par contre, dans la mesure où dans les applications sécuritaires, on va se baser de moins en moins sur l'épistème visuel pour détecter des terroristes potentiels, etc., parce qu'on s'en méfie, on se dit, mais les surveillants, les policiers, les douaniers sont toujours un peu racistes, donc on va plutôt confier à des machines la détection du risque potentiel de que ce soit de fraude à la douane ou de risque terroriste. Et voyez, l'épistème visuel n'est plus du tout ce par quoi passe la manière de faire des groupes, mais au contraire, on passe par des choses beaucoup plus subtiles qui ne sont absolument indétectables aux êtres humains, et suivant finalement une sorte d'idée récurrente, hein, qui existe déjà par rapport à la génétique aussi d'ailleurs, hein, que ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas au sens ordinaire est toujours beaucoup plus vrai, beaucoup plus fiable que ce qui est évident, que ce qu'on voit, que ce qu'on perçoit par les sens. C'est peut-être un petit peu la même chose dans le domaine de la psychanalyse, mais je ne me lance pas dans ce débat-là, mais c'est cette idée que ce qui est secret donc est beaucoup plus fiable que ce qui est visible. Donc c'est vraiment un nouveau régime de vérité sans véritable régime, puisque un régime, c'est ce qui oblige à dire. Ici, on n'oblige plus personne à dire quoi que ce soit, on détecte sans qu'il y ait aucun besoin de manifestation de la part des individus, d'une appartenance, d'aucune déclaration, d'aucune énonciation. Donc il ne s'agit même plus d'un régime de vérité. On avait déjà discuté avec Bernard Stiegler il y a un moment, donc je ne reviens pas là-dessus. Alors, tout ça pour dire qu'il est important de distinguer aujourd'hui deux manières très très différentes de catégoriser les individus ou leur comportement. Alors, dans les processus traditionnels de classification, on subsume, comme je vous le disais, des caractéristiques présentes, visibles des individus dans des catégories préexistantes. Alors, l'avantage de ça, bien entendu, c'est que les individus peuvent s'y reconnaître, soit ils disent eux-mêmes qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie, soit ils se reconnaissent dans la catégorie dans laquelle on les place, et dans cette mesure-là, peuvent se développer vraiment éventuellement une auto-organisation du groupe, des mécanismes de solidarité et d'éventuels mécanismes de défense collective, d'action collective. Une autre manière, ce qui est la manière contemporaine au big data de fabriquer des groupes, eh bien, c'est ce qu'on appelle le clustering. Et donc, c'est faire émerger les catégories, comme je vous le disais, des données elles-mêmes, sans rien présupposer d'autre. Alors là, évidemment, les individus ne peuvent absolument pas s'y reconnaître. Non seulement on ne leur demande pas à quelle catégorie ils appartiennent, mais on ne leur dit pas non plus dans quelle catégorie ils sont classés. Et donc, ils n'ont aucune possibilité d'action collective, de solidarité, etc. Et tout ça va vraiment dans le sens d'une hyper-individualisation qui, finalement, satisfait notre obsession pour le coût réel. Hein. Il ne s'agit plus aujourd'hui, même dans l'assurance, il s'agit de moins en moins d'assurer des groupes de personnes que d'assurer des individus en fonction de leur coût réel, de leur risque réel à eux-mêmes. Cette obsession pour la réalité qui va tout à fait de pair avec la tyrannie du réel, c'est-à-dire le réel non représenté, non symbolisé, non socialisé, le réel pré-social en quelque sorte, qu'on essaye enfin de toucher et de caractériser et qu'on essaye de faire payer en fonction de son risque, enfin des différents risques qui s'y décèlent. Alors je pense que ça c'est quelque chose de... d'assez important et qui est assez peu vu par le droit, en fait. Les avantages présumés du clustering ou de la catégorisation à travers l'analyse des big data plutôt que de la catégorisation à l'ancienne, les avantages présumés, c'est évidemment le fait que, précisément, ces modalités de clustering sont politiquement, socialement et idéologiquement neutres. Et qu'il contourne les points de vue biaisés, inévitablement biaisés, les catégories inévitablement biaisées à travers lesquelles les êtres humains sont prédisposés à percevoir le monde. Et c'est d'ailleurs un argument fréquemment avancé, ça, en faveur, par exemple, du remplacement des douaniers par des dispositifs automatiques qui utilisent le profilage des big data. Bon, je ne rentre pas... Il y a Tal Zarsky, un juriste américain, le champion de la défense de ces dispositifs algorithmiques. Hein, il dit que finalement... ceux qui s'y opposent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire en général c'est la majorité qui aujourd'hui, la majorité blanche américaine qui aujourd'hui est peu inquiétée par les douaniers, etc., qui veut garder son privilège et donc qui préfère encore qu'on catégorise à l'ancienne et que finalement les préjugés continuent à être transformés en décisions qui sont contraires aux intérêts de la minorité, alors que le data mining permettrait au contraire d'être beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, puisque tout le monde serait considéré de la même façon. On traverse vraiment les classifications préexistantes et donc il n'y a pas de préjugés. Mais eux-mêmes, les gens de la majorité seraient également exposés, si vous voulez, au risque d'être arrêtés à la frontière, devoir délivrer leur papier d'identité, etc. Et donc c'est un argument évidemment fallacieux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, par rapport à tout ça, que disait Derrida sur la justice? Derrida, lui, il me semble qu'il prenait une certaine intranquillité des juges. Parce qu'évidemment, ces dispositifs algorithmiques, qu'est-ce qu'ils assurent aux décideurs? Une absolue tranquillité, puisqu'il suffit de suivre le calcul pour être, en quelque sorte, immunisé de toute critique de partialité, de manque d'objectivité, etc. Donc, c'était une sorte de déresponsabilisation que risquent d'apporter ces dispositifs. Alors, Derrida et l'intranquillité des juges, je ne sais pas si l'intranquillité est le bon mot, mais je vous lis juste quelques brefs passages de ce texte magnifique de Derrida sur le droit, « Force of Law ». Il explique que le droit n'est pas la justice. Le droit est l'élément du calcul. Et c'est intéressant parce que chez Derrida intervient très fort cette notion de calcul dans l'incalculable. C'est très proche, en fait, de ce que font les analyses de type big data. Ils calculent dans l'incalculable, dans ces masses de données qui grandissent en temps réel, donc incalculable. Il y a néanmoins du calcul. C'est là qu'on voit une sorte de proximité. Donc, le droit est l'élément du calcul. Et il est juste qu'il y ait du droit, mais la justice est incalculable. Elle exige qu'on calcule avec de l'incalculable. Et les expériences aporétiques sont des expériences aussi improbables que nécessaires de la justice, c'est-à-dire de moments où la décision entre le juste et l'injuste n'est jamais assurée par une règle. L'indécidable, ce dont nous dispensent les big data, c'est bien ça, c'est de l'indécidable. On est dans le décidable, puisqu'on a prévu par avance et qu'on a agi par avance sur tout ce qui peut arriver. Donc, il n'y a plus d'indécidable. L'indécidable, nous dit Derrida, ce n'est pas seulement l'oscillation entre deux significations ou deux règles, c'est l'expérience de ce qui, étranger, donc pas la clôture du numérique, mais l'étranger, hétérogène à l'ordre du calculable et de la règle, doit cependant, et c'est bien de devoir qu'il faut parler, se livrer à la décision impossible en tenant compte du droit et de la règle. Une décision qui ne ferait pas l'épreuve de l'indécidable ne serait pas une décision libre, elle ne serait que l'application programmable ou le déroulement d'un processus calculable. Alors là, c'est fabuleusement intéressant pour notre propos, bien entendu, puisque à la fois, les big data nous promettent de nous libérer de la norme et de la règle, donc de la loi, en quelque sorte, puisque la loi se décide au fur et à mesure en fonction des faits, le profil s'affine en temps réel, etc., la norme évolue en temps réel de façon virale. Donc on est à la fois libéré de cet élément de calcul qu'est la loi, mais aussi on est aussi libéré de l'incalculable et donc de l'obligation de décider. Et donc c'est réellement une liquidation radicale c'est même pas une liquidation de la justice, c'est finalement le vide total de tout besoin de justice. Alors je continue chez Derrida. L'indécidable reste pris, logé comme un fantôme, au moins, mais un fantôme essentiel dans toute décision, dans tout événement de décision. Alors, c'est justement en fonction de cet indécidable, en fait, en raison de cet indécidable, que le droit organise lui-même les conditions de sa propre remise en question. C'est pour ça qu'il y a des appels. C'est pour ça. C'est aussi. Pierre Legendre dit le droit, c'est une dogmatique consciente d'elle-même, et qui donc est obligée d'organiser, en fonction de cette conscience de son caractère dogmatique, est obligée d'organiser sa propre remise en question. Ici, la remise en question des normes, si on peut appeler ça comme ça, des normes émergeant des pratiques algorithmiques ou des analyses algorithmiques, elle n'est nullement nécessaire, puisque tout raté, dès qu'un profilage algorithmique rate, c'est-à-dire que le réel qu'il est censé à la fois décrire et prévenir se produit différemment que ce qui avait été modélisé, donc dès qu'il y a du raté, ça ne sera jamais interprété comme du raté, ça sera simplement une occasion d'affiner le modèle. Et donc, parce que c'est réinvesti, réintégré dans la base statistique, et donc cette notion de raté qui pourrait permettre précisément de remettre en question la règle ou le profil ou la modélisation disparaît. Donc il n'y a plus cette occasion. Il n'y a plus cette occasion. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de fantôme. Il n'y a pas de fantôme dans la mesure où les données, c'est quoi les données elles n'ont aucune mémoire, en fait. Ou bien alors, c'est une mémoire sans souvenir. Les données, c'est du pur actuel. Il n'y a pas de possibilité non plus d'une posture foucauldienne, un peu généalogique, par rapport aux normes ou aux profils émergents des big data. C'est juste impossible. Tant la posture archéologique que généalogique ne sont absolument pas tenables, dans la mesure où il n'y a pas d'historicité, il n'y a pas de récit. Alors, Derrida continue en disant que, pour être juste, la décision d'un juge, par exemple, doit non seulement suivre une règle de droit ou une loi générale, mais elle doit l'assumer, l'approuver, en confirmer la valeur par l'acte d'interprétation réinstaurateur, comme si, à la limite, la loi n'existait pas auparavant, comme si le juge l'inventait lui-même à chaque cas. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est cette notion d'endorsement, en quelque sorte. C'est pas que le juge fait la loi en continu, c'est-à-dire qu'il ne doit pas tenir compte de l'élément du calcul qui est la loi, mais lorsqu'il applique la loi, pour que ce soit juste, qu'il l'applique justement, il faut nécessairement que ce soit comme s'il la réinventait, c'est-à-dire qu'il la prenne à son propre compte, comme s'il en était en quelque sorte l'auteur. Alors, quand on compare ça aux décisions qui s'ensuivent de l'application des profils, évidemment, d'abord, la notion d'autorité, donc d'auteur, disparaît complètement. La décision n'est plus assumée par aucune figure concrète. Et la notion même d'invention est toujours déjà court-circuitée par cette idée d'invention automatique ou de curiosité automatique des algorithmes. Et donc, ce qui disparaît, en fait, c'est la possibilité, tant pour celui qui prend la décision, par exemple, sur base d'un traitement automatisé algorithmique de données, une personne qui prend une décision sur une base, comme ça, d'une recommandation fondée sur un traitement automatisé, n'a plus à rendre compte des raisons de sa décision, de la justification, mais aussi pour la personne qui fait l'objet de la décision. Elle n'a plus l'occasion de rendre compte de ce qui l'a fait agir, de sa trajectoire, etc. Donc ce qui disparaît, c'est réellement la possibilité de se retrouver dans ses motivations, de les exprimer. C'est en quelque sorte ce qui disparaît, c'est le sujet de droit comme sujet d'énonciation. Bref, dit Derrida, pour qu'une décision soit juste et responsable, il faut que dans son moment propre, s'il y en a un, elle soit à la fois réglée et sans règle, conservatrice de la loi et assez destructrice ou suspensive de la loi pour devoir à chaque cas la réinventer, la rejustifier, la réinventer au moins dans la réaffirmation et la confirmation nouvelle, libre de son principe. Chaque cas est autre, chaque décision est différente et requiert une interprétation absolument unique, qu'aucune règle existante et codée ne peut ni ne doit absolument confirmer. Si du moins elle la garantit de façon sûre, alors si du moins cette décision donc est garantie par la loi de façon sûre, alors le juge ne serait qu'une machine à calculer. Donc voilà, on se retrouve exactement dans la même métaphore finalement. Le juge ne serait qu'une machine à calculer, ce qui arrive. On ne dira pas qu'il est juste, libre et responsable. Bon, alors, tout ça est bien beau, mais dire, voilà, le juge doit être libre relativement au profilage, etc., autant qu'il est libre relativement à la loi et qu'il a éventuellement un rôle subversif à jouer vis-à-vis de la loi, c'est bien beau, mais quelle liberté effective, quelle liberté de décision effective nous reste-t-il lorsqu'en tant que décideur, nous sommes assistés par des recommandations fondées sur des traitements automatisés de données? Alors là, je vais aller vite parce que j'ai très peu de temps, mais je voudrais juste évoquer la force prescriptive ou la force normative ou la force de, comme dirait Derrida, des systèmes automatisés. Alors cette force dépend de plusieurs choses. Évidemment, ça dépend d'abord de l'objectif du dispositif automatique. Est-ce qu'il a vocation à se substituer à les décisions humaines ou est-ce qu'il a simplement vocation à recommander ? Mais aussi de tout un ensemble de tout le contexte dans lequel la décision est prise. Si lorsque l'individu s'écarte de la recommandation automatisée, il est sanctionné par son supérieur hiérarchique, il aura moins tendance, par exemple, à s'en écarter. Bref, je passe là-dessus parce que je vois qu'il est grand temps. J'ai prévu quelque chose de beaucoup trop large pour la session. Je termine sur un autre, et ce sera le dernier enjeu pour la justice, me semble-t-il, de ces questions liées au big data, au profilage. La question de savoir ce qu'en toute justice, on doit mettre à l'épreuve. Est-ce que ce sont les faits ou les circonstances des faits ? On nous dit aujourd'hui beaucoup, et il y a une littérature importante, sur l'auditing des algorithmes. Être sûr que une façon d'assurer la justice serait d'être sûr que les algorithmes font bien ce qu'ils sont censés faire et qu'ils ne sont pas eux-mêmes traversés de biais, etc. Alors, ça c'est une manière assez qui pourrait être séduisante de s'assurer une certaine forme de justice, mais ce serait présupposer que dès lors que les algorithmes seraient objectifs, cette objectivité serait équivalente à la justice. Ce n'est absolument pas le cas, bien entendu, parce que ce qui compte, ce n'est pas que les algorithmes soient objectifs, ils ne le seront jamais totalement. Ce qui compte, c'est que la décision qui est prise sur leur base soit juste. Et donc, ce qu'il faut exiger, c'est la justiciabilité non des processus algorithmiques, mais des décisions humaines. C'est là tout l'enjeu. Il s'agit donc d'exiger, chaque fois qu'une décision est prise ou qu'une décision affecte substantiellement un individu, il s'agit d'exiger que cette décision soit justifiée, rendue justiciable, non pas sous forme de manifestation d'une cohérence ou d'une adéquation par rapport à une recommandation automatisée, mais qu'elle soit justifiée au regard de la situation singulière et non pas de profil, pas en fonction du profil, la situation singulière de l'individu. C'est la seule manière de faire ressurgir du non numérisé dans le numérique. C'est la seule manière de faire en sorte que le réel interrompe cette esthétique non robuste du numérique. Voilà, je suis désolée, j'ai été beaucoup trop longue, voilà, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous les dirai une prochaine fois.
Merci beaucoup, Antoinette. En fait, c'est qu'un des résultats de ce colloquium, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un thème sur lequel il y aura beaucoup de choses encore à faire. Et maintenant, il y a temps pour une question. Donc, là-bas.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très, très, très intéressant. Effectivement, le temps nous a manqué pour pouvoir plus approfondir sur vos travaux. J'espère que vous pourrez me conseiller une de vos œuvres pour pouvoir approfondir plus haut à la BPI tout à l'heure. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, en fait, parce que ça touche à une question que je me pose depuis un petit moment, c'est à quel point il nous reste effectivement une capacité de choisir. Dans le sens où si finalement l'entendement, enfin l'analyse nous... Enfin, je ne sais pas, mais dans le processus de choix, on va dire faire de base, on va peser le pour et le contre par l'analyse. Finalement, le choix découle de notre méthode d'analyse. Donc finalement, ce n'est plus un choix, vu que c'est l'analyse qui nous dicte le choix. Donc est-ce que le choix, c'est vraiment cette capacité dans une situation où il n'y a plus... Enfin, il y a les deux possibilités, les deux choix se valent. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un choix et c'est vraiment assumé et comment dire, inscrire une singularité dans le sens où je choisis une possibilité parce que je dois choisir, l'analyse ne m'incite pas à prendre plus ce choix que ce choix.
C'est toute la question de la liberté dans une situation déterministe. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Peut-être que c'est... Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est comme ça que j'entends votre question. Cette notion de capacité de choisir, qui est toujours déjà court-circuitée, en fait, par des méthodes d'analyse de données qui sont extrêmement performantes et qui délivrent des choses qu'en tant qu'être humain, nous sommes incapables de décider. Ce n'est plus tellement la question, en fait. Je pense qu'il faut déplacer la question. Ce n'est plus tellement la question de choisir en tant que manifestation d'une capacité d'entendement, de volonté, de calcul, etc., qui est pourtant encore dans la conception actuelle de la notion de sujet de droit, la pièce maîtresse de la subjectivité juridique. Je pense qu'il faut la déplacer vers autre chose, qui est plutôt notre capacité dans l'après-coup à rendre compte de ce qui nous a fait agir ou de ce qui nous a fait décider d'une certaine manière, quand bien même nous n'aurions pas la maîtrise précisément de ce qui nous a fait agir ou de ce qui nous a fait décider d'une certaine manière. C'est bien ça quand Derrida dit, ben, évidemment, la loi, quand le juge applique entre guillemets la loi, il ne peut pas l'appliquer de façon mécanique, il doit la prendre à son compte et donc la réinventer et la faire dévier, éventuellement la subvertir d'une certaine manière. C'est bien ça. Ça implique aussi de se tenir dans une relation, comme disait Agamben, de se tenir dans une relation juste par rapport à sa propre ignorance. Notre ignorance n'est pas diminuée par l'existence des dispositifs algorithmiques. Au contraire, elle se déplace. En fait, ce à quoi nous avons affaire, c'est pas une diminution de l'incertitude, ce sont des trajectoires très particulières de l'incertitude qui rentrent dans des zones d'ombre. On ne perçoit plus l'incertitude comme telle, mais elle est toujours là, si vous voulez. Et c'est rendre compte de ce toujours-là qui constitue réellement notre capacité d'agir, notre capacité d'agent, ou les agency, comme on dirait. Donc voilà, la capacité de choisir, on ne l'a jamais eue. Je pense que c'est pas neuf. On n'a jamais été des êtres rationnels, libres, autonomes, etc. Et je n'ai absolument, aucune nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie à avoir par rapport à quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, je ne suis pas nostalgique du sujet comme ça. Mais je suis nostalgique de la fonction sujet. Et la fonction sujet Foucault parle de la fonction auteur. Moi, je parle de la fonction sujet, qui est précisément... le sujet, c'est quoi ? C'est un lieu, c'est une consistance, en fait. C'est une consistance physique qui se trouve être le support pour des processus d'énonciation qui peuvent être tout à fait fabulatoires. C'est au-delà du vrai et du faux. C'est la possibilité d'énoncer par soi-même ses propres motivations, y compris celles sur lesquelles on n'a aucune prise, mais dans l'après-coup. C'est toute l'histoire d'Althusser qui regrette de ne pas avoir eu de procès, de ne pas avoir bénéficié d'un procès, mais d'avoir bénéficié d'un non-lieu pour l'assassinat de sa femme, parce qu'il n'était pas en possession de ses... Dans un moment de folie, il a étranglé sa femme, et il regrette le moment du procès, qui aurait été non pas le moment qui n'aurait pas permis de ressusciter sa femme, mais qui lui aurait permis de raconter même ce trou dans son existence et de faire le lien, de faire une sorte de contre-profilage, de se constituer comme animal autobiographique, en quelque sorte, et de retrouver une consistance de sujet. Mais c'est cet après-coup. Et ce qui manque dans la gouvernementalité algorithmique, finalement, c'est ça, ce sont les fantômes, c'est cette nécessité de l'après-coup. On est dans une sorte d'immanence tellement saturée qu'on n'a plus besoin, tout est toujours déjà là, il n'y a plus d'historicité, il n'y a plus d'avenir non plus, puisque l'avenir est déjà absorbé dans le temps réel, on le prévoit, on le préempte. Et donc, voilà. Donc, la capacité de choisir, à mon avis, ce n'est pas la bonne question.
Merci. Merci Antoinette, merci à tous les participants. J'appelle Maurizio ici, qui est le directeur scientifique de ce colloquium, et je lui donne la dernière parole, la dernière mot.
Ça va être très bref, donc je n'ai pas besoin de choses. Comment trouver le sens d'un colloque, le sens unitaire d'un colloque si riche, si vaste? Évidemment, ça, on ne va pas le chercher avant qu'on ferme les portes. Je vous propose un mental experiment. On est dans une fête de l'humanité, celle qui évoquait Bernard Stiegler, et ça a été 2 jours et demi d'une fête de l'humanité où, au lieu du capital, on a parlé du web, et on a conclu qu'effectivement, l'humanité, ça n'existe pas, comme disait Jean Jaurès dans son premier article sur l'humanité, mais existent des techniques qui la révèlent. Et donc, justement, Antoinette Rouvray disait, on ne peut pas être nostalgique de quelque chose qui n'existe pas, n'a jamais existé, mais il faut être nostalgique d'une fonction qui doit être repensée au fur et à mesure où la nouvelle réalité à laquelle on se mesure, ce n'est plus, selon moi, le capital, mais c'est le web. Et je crois que ces journées qui nous ont engagés ont jeté beaucoup de questions, ou comme disait Bernard Stiegler, ont ouvert le chantier de l'inquiétude. Donc, Merci et bon week-end.